La vie des membres de la French Connection est un perpétuel jeu du chat et de la souris avec les policiers. Et tandis qu'aux États-Unis, les forces de l'ordre marquent des points significatifs, les trafiquants comme Milou Diaz organisent et renforcent les points de passage par l'Amérique latine et le Québec.
Aux États-Unis d'Amérique, à Manille, il y avait le feu. Plein de mecs arrêtés aux États. Donc les gens, ils ne voulaient plus envoyer de leurs marchandises aux États-Unis. Donc on est passé par le Mexique et le Canada.
Ah oui.
Tu vois ?
Ouais.
C'était pas de la marchandise destinée aux Canadiens. C'était de la marchandise destinée aux Américains.
Et comme souvent dans l'histoire du crime, les policiers ont un temps de retard. À Montréal, un nom commence à revenir de plus en plus souvent dans le milieu criminel lorsqu'on parle du trafic d'héroïne.
C'est un gars de Montréal, de Villeray. Il a de la difficulté à gagner sa vie, donc il commet quelques vols, mais c'est mineur tout ça.
Je parle avec Benoît Gignac, un auteur québécois qui a longuement étudié le parcours de l'homme en question pour son livre intitulé « Lucien Rivard, un caïd au cœur du scandale ».
En sortant de prison la deuxième fois avant sa vingtaine, il commence à arpenter la rue Saint-Laurent. Il devient pusher. Un pusher, c'est un revendeur de drogue, c'est-à-dire ce n'est pas un fabricant.
D'abord escroc et cambrioleur, le Québécois Lucien Rivard commence à jouer un rôle de plus en plus important dans le trafic de drogue en Amérique du Nord.
Il se tisse un certain nombre de relations qui font qu'il devient un pusher de plus en plus important. Et une des choses qu'on comprend maintenant, c'est que le fait qu'il soit un francophone l'a aidé à développer ses réseaux. Et Rivard devient une façon pour les Français d'acheminer par Montréal. Et lui-même fait du trafic, c'est-à-dire que lui-même va à Marseille et revient dans ses valises avec des kilos et des kilos qui valent en dollars d'aujourd'hui des millions de dollars, qu'il va ensuite faire passer aux États-Unis de toutes sortes de manières.
Très tôt, le nom de Rivard apparaît dans les fichiers de renseignement de la police canadienne. Il est connu comme un organisateur incontournable des trafics d'héroïne à Montréal et même au Canada. Dès le début de mes recherches sur cette affaire, et en particulier son volet québécois, j'ai été très surpris de découvrir l'importance du personnage de Rivard et le parcours incroyable de ce criminel hors norme.
French Connection. Marseille, Montréal, New York. Avec Stéphane Berthomet. Deuxième épisode.
Et donc, on sait que dans les années 50, Lucien Rivard, il était non seulement en lien avec New York pour vendre sa marchandise, mais aussi avec les Cotroniques.
Ah oui, oui. Déjà en 51, 52, 53, des rumeurs, c'était que Rivard était devenu le kingpin de la drogue à Montréal. Et là, ben, Rivard pouvait pas opérer à Montréal s'il n'y avait pas l'accord de Galante et de Cotroniques.
Lucien Rivard connaît déjà bien les membres du clan mafieux montréalais, les Cotroniques. Le journaliste Jean-Pierre Charbonneau avance même que ce serait par son entremise que la famille Cotroniques aurait pris toute sa place dans le trafic de drogue à l'échelle internationale.
L'hypothèse la plus sérieuse, c'est qu'il était en affaires avec les Cotroniques, c'est-à-dire qu'il était associé.
Le fait que Lucien Rivard n'appartienne à aucune famille mafieuse et opère à haut niveau dans le milieu criminel en conservant son indépendance en fait un personnage tout à fait à part dans l'histoire de la French, et même dans l'histoire du milieu criminel en général.
Nous savons, Maître Lamontagne, qu'il y a quelques Canadiens qui se sont illustrés, n'est-ce pas, dans le trafic. Ah ben, il y a Rivard. Il y a Rivard.
Aux yeux de la police, le rôle de Rivard est central et ses liens avec différents acteurs du trafic de drogue international sont évidents. Mais les preuves manquent pour l'arrêter. Les années qui suivent sont fructueuses pour les criminels québécois et l'argent amassé permet de corrompre policiers et politiciens pour s'assurer une certaine tranquillité dans les trafics menés alors depuis Montréal sous la supervision de la mafia new-yorkaise.
Non seulement Montréal était une ville ouverte, mais c'était une ville de corruption, tout azimut.
Mais malgré des affaires fructueuses, ou peut-être à cause de cela, quelques années plus tard, les relations entre Lucien Rivard et la famille Cotroniques se compliquent.
C'est là qu'il devient quelqu'un de menaçant. Ils ne veulent pas que lui grossisse plus qu'il le faut, là, parce que les Français préfèrent travailler avec Rivard qu'avec eux.
Selon Benoît Gignac, les Cotroniques supportent mal la présence sur leur territoire d'un électron libre dont le réseau de contact s'étend de la France aux familles new-yorkaises.
Il est très intelligent de ne pas essayer de s'imposer devant les Italiens à Montréal. Rivard, au milieu des années 50, décide de quitter Montréal pour Cuba plutôt que d'affronter les Cotroniques.
La mer est l'artère vitale du trafic des stupéfiants. Un navire, en raison des facilités qu'offre la complexité de sa structure...
Et ce n'est pas par hasard que Rivard a choisi de s'installer à La Havane. C'est là qu'un groupe de Français dirige depuis peu des cabarets et des casinos qui servent à blanchir une partie des revenus de leur trafic. François Missen, qui a été journaliste à Marseille durant les grandes années de la French, connaît particulièrement bien cette partie de l'histoire.
Il y a eu cette association de malfaiteurs qui permettait de structurer le réseau pour inonder le marché américain.
Missen a travaillé pour le quotidien marseillais Le Provençal et écrit plusieurs ouvrages sur certains des acteurs majeurs de ces réseaux. Paul Mondoloni est un Français originaire de Sartène, en Corse. C'est un proche de la famille Guérini à Marseille.
Mondoloni est recherché par toutes les polices du monde.
Mondoloni, surnommé Monsieur Paul, aurait débuté sa carrière de voyou en faisant du marché noir en France durant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Baptiste Crochet est lui aussi né en Corse. Il était matelot avant la guerre et s'est livré à la contrebande de morphine base.
Crochet, c'est un navigateur. Il va dans des pays où il va s'inspirer des trafics divers qui peuvent le ramener finalement à améliorer son ordinaire.
Avant de s'installer à Cuba, c'est d'abord au Mexique au début des années 50 que Mondoloni et Crochet ont participé à la réorganisation des anciennes filières des fameux Paul Carbone et François Spirito, dont nous avons parlé dans le premier épisode. Ils se sont alors imposés comme des personnages clés des réseaux installés sur le continent américain. Une aventure rocambolesque témoigne de l'audace des deux hommes. En 1953, ils transportent de l'héroïne depuis la France vers le Mexique en voyageant à bord d'un paquebot français. Mais le trajet du bateau est détourné pour une escale vers la Floride et les deux compères craignent que ce ne soit une manœuvre des autorités américaines. Ils n'hésitent alors pas à dérober une chaloupe pour rejoindre à la rame une plage mexicaine avec leurs marchandises. Une scène que l'on dirait tout droit sortie d'un film. Durant tout leur séjour au Mexique, Mondoloni et Crochet organisent l'importation régulière d'héroïne depuis la France, notamment par bateau. Mais ils deviennent alors, avec plusieurs de leurs complices, la cible des policiers américains, canadiens et bientôt mexicains. Ils sont activement recherchés. Et c'est certainement pour cela qu'au début des années 50, Mondoloni et Crochet s'installent à Cuba, où le climat politique est bien plus favorable à leurs affaires.
Donc, Mondoloni, il s'installe dans une ville qui s'appelle Camagüey. C'est une ville où il y a un aéroport.
Le niveau de vie à Cuba dans les années 50 ressemble un peu à celui des États-Unis. Et sous le règne du dictateur Rubén Batista, la corruption à tous les niveaux de l'État est une aubaine pour les trafiquants.
Mondoloni, il ouvre un cabaret qui s'appelle le Morocco, dans lequel notre cher Canadien Lucien Rivard a des actions aussi. Donc il y a la connexion déjà entre le Canada et la France à travers Mondoloni et Rivard.
Mondoloni, Crochet et plusieurs autres membres de la French, dont Lucien Rivard, sont alors le pivot des trafics entre la France et les États-Unis. Ce que confirme l'ancien trafiquant, Milou Diaz.
C'est point de trafic à Mondoloni. Ils étaient en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes. Par contre, je sais qu'il envoyait des marchandises au Canada. Pour les Américains, pas pour le Canada.
Et selon les informations obtenues à l'époque par les polices canadiennes et américaines, l'entente entre les Cotroni et les membres de l'équipe cubaine aurait été organisée directement depuis New York.
Ils prennent des accords avec les Américains. Il leur propose le marché. Il dit, voilà, nous, on vous amène de l'héroïne par des bateaux, par le port de Camagüey, par Nuevitas, etc. Et par les Antilles françaises, vous avez vos avions qui vont directement sur Boston, sur Miami, sur New York, et, comme on dit dans le milieu, baraque. Baraque, c'est-à-dire le pactole.
Mondoloni et Crochet se sont spécialisés dans le passage de la drogue, l'une des parties du trafic qui demande le plus d'imagination et une certaine audace.
Mondoloni, moi j'adorais parler avec lui, parce que c'était l'intellectuel lui, hein, c'était pas un endormi, comme certains imbéciles, là, tous ces vieux Corses. Là. Bon, et à un moment donné, tellement qu'ils sont devenus puissants, ils ont traité directement avec les gens de Cuba de la mafia.
Tout semblait aller pour le mieux au sein de la filière cubaine. Mais quelques temps après l'installation de Rivard à La Havane, Mondoloni est rattrapé par une affaire de vol de bijoux en France dans laquelle il a été impliqué de nombreuses années auparavant. Il devra quitter La Havane, suivi de près par Crochet. C'est un premier coup de chance pour Rivard qui récupère l'intégralité des intérêts financiers et des affaires louches de ses amis.
À ce moment-là, Rivard était celui qui avait les contacts avec les Français, avec les contacts avec les Américains. Donc, Rivard est devenu un pivot de la French Connection à partir de l'expulsion des trafiquants français.
On dit de lui à l'époque qu'il est aussi le plus important trafiquant d'armes en Amérique. Il reçoit d'ailleurs souvent la visite de représentants de la famille Bonanno de New York. Rivard gagne alors environ 4 millions de dollars, à valeur d'aujourd'hui, de revenus criminels par année. Il paye 20 000 dollars par semaine de pot de vin au dictateur Batista.
Il était très, très bien à Cuba. Il vivait très, très bien là-bas. Il était propriétaire à la fin de 3 ou 4 commerces, d'un casino et ainsi de suite. Je ne sais pas si la révolution n'avait pas eu lieu, s'il serait rentré à Montréal jamais dans sa vie.
Comme me l'explique Benoît Gignac, Rivard avait tout pour lui à Cuba. Il est notamment propriétaire des cabarets Les Nuits d'Ève, le Sans Souci, le Pigalle et le Cupidon. Mais ces beaux jours seront de courte durée.
La grande affaire du jour, c'est l'entrée imminente de Fidel Castro à La Havane.
Oui, 48 heures de suspense tragique à Cuba ont abouti ce matin à la proclamation d'un président provisoire, M. Manuel Urrutia, dans une capitale provisoire, elle aussi, Santiago de Cuba.
La fin des années 50 marque l'arrivée au pouvoir de Che Guevara et de Fidel Castro. Lucien Rivard, qui a entretenu des liens avec la dictature de Batista, passe tout proche d'être fusillé.
On l'a emprisonné, même s'il est souvent dit dans la littérature que Rivard a fourni des armes aux révolutionnaires.
Rivard aurait été assez avisé pour soutenir financièrement la dictature en place tout en vendant des armes aux révolutionnaires. Un avocat québécois se rend à La Havane et intervient pour tenter de tirer Rivard de ce mauvais pas. La chance est une nouvelle fois de son côté. Il est libéré et revient au Québec en 1959 avec une belle somme d'argent en poche.
Est-ce qu'il a été un des rouages importants en Amérique du Nord de la drogue entre 1946 et 1959? Certainement pas le plus important, mais c'était un joueur reconnu et suivi, enquêté continuellement par les autorités policières.
Rivard s'installe non loin de Montréal et tente de faire croire qu'il se livre désormais à des activités légales, ce dont les autorités doutent évidemment. Et alors que Rivard vient juste de rentrer au Québec, Giuseppe Cotroni, surnommé Pep, qui dirige alors les opérations du clan sur le terrain, fait la connaissance d'un Italien nommé Dave Costa. Celui-ci lui est présenté comme un homme de confiance par un des membres de son réseau. Dave Costa passe une première commande de 2 kilos d'héroïne au Cotroni pour un montant de 14 000 dollars. Quelques temps après, une seconde opération est réalisée. Giuseppe Cotroni se prend d'amitié pour Dave Costa, à qui il propose de livrer 8 kilos d'héroïne à crédit. Ce que Cotroni ignore alors, c'est que Dave Costa est un agent d'infiltration américain et que la plupart des conversations qu'ils ont eues ensemble ont été enregistrées. À l'issue d'une série d'opérations rocambolesques, Giuseppe Cotroni est arrêté et plaide coupable le 9 novembre 1959.
Après un procès mouvementé, Giuseppe Cotroni a été condamné à 60 000 dollars d'amende et à 10 ans de pénitencier.
Un an plus tard, après avoir été inculpé par un grand jury américain, 7 ans de prison s'ajouteront à la première peine. Giuseppe Cotroni est définitivement hors circuit et Rivard a à nouveau le champ libre, cette fois au Québec.
À New York, à Paris et dans les principales capitales européennes, les spécialistes des trafics de stupéfiants sont en alerte. Ils sont partis en guerre contre le réseau international de la drogue.
Peu de temps après, au début de l'année 62, une autre affaire pour le moins originale éclate. Et encore une fois, ses participants ont des attaches à Montréal et surtout des liens étroits avec Lucien Rivard. C'est lors de surveillance menée à New York que des policiers américains identifient plusieurs individus suspects. En suivant cette piste, ils mettent la main au collet de 4 hommes, Patsy et Anthony Fuca, Jacques Angélevin et François Scaglia, dit l'exécuteur. 10 kilos d'héroïne sont trouvés au domicile de Scaglia, qui écope de 22 ans de pénitencier, et 42 kilos sont sortis de la voiture dans laquelle les hommes circulaient. C'est alors l'une des plus grosses saisies d'héroïne jamais réalisées en une seule fois en Amérique. Le profil des personnages est plutôt surprenant, car tandis que François Scaglia est un truand auteur de plusieurs enlèvements, Jacques Angélevin est un animateur de télévision bien connu en France.
Angélevin étant marseillais, il a seulement, pour la circonstance, retrouvé la sœur natale.
Un petit peu.
Moi, je dis bonjour à ma famille, alors qu'il est
bonjour
à Marseille.
Bonjour à la famille. Bonjour à la famille d'Angélevin.
Et les collègues, alors.
Et les collègues aussi.
Angelvin tentera dans un premier temps de nier qu'il est mêlé de près ou de loin à un trafic de drogue, en disant qu'il a simplement voulu faire un tour aux États-Unis avec ses amis.
À New York, c'est mercredi prochain, que le sort de Jacques Angelvin doit en principe se jouer.
Il sera condamné en septembre 63 à un minimum de 3 ans de prison. Derrière l'affaire Angelvin, il y a un homme nommé Édouard Rimbaud, dont le rôle est primordial, puisque c'est lui, et lui seul, qui est en contact avec l'acheteur de la marchandise. Et Rimbaud ne manque ni d'imagination, ni de contact.
Le problème des trafiquants français, marseillais, c'était pas de trouver la drogue, c'était de la transporter. Ça a toujours été notre problème, transporter la drogue.
Rimbaud, qui est né à Marseille en 1920, est aujourd'hui décédé. Mais il a laissé derrière lui de précieuses déclarations enregistrées par le journaliste François Missen, qui nous a confié plusieurs heures de vieilles bandes audio.
Bon, est-ce que ça vous impressionnait quand même de côtoyer ces gens-là, des Mémé Guérini ?
Ça ne m'impressionnait pas du tout. Je ne vois pas pourquoi ça m'aurait impressionné. Ils étaient comme nous, hein. À part qu'ils avaient un peu mieux réussi peut-être.
On peut dire sans se tromper que Rimbaud, surnommé Doudou, a eu un parcours assez particulier. Flic pendant l'occupation, une activité dont il n'aime pas trop parler, il a aussi été escroc et perceur de coffres-forts avant de plonger dans la French.
C'était un milieu qui, à mon avis, est aussi normal que notre. Puisque ces gens-là, ils ne sont pas tous les jours en train de voler, ils ne sont pas tous les jours en train de tuer, ils ne sont pas tous les jours en train de vendre de la drogue. Ils mènent une vie normale comme tout le monde. D'ouvrir un coffre, c'est leur boulot. Mais si vous ouvrez un coffre le samedi, du lundi au vendredi, pour avoir mené une vie tout à fait normale.
Détail original, Édouard Rimbaud a écrit plusieurs romans, certains parus dans la prestigieuse série noire sous le pseudonyme de Louis Salinas. J'ai entendu tellement d'histoires rocambolesques en écoutant ces cassettes qu'il n'a pas été facile de choisir. Mais voici l'un des nombreux stratagèmes qu'il a mis en place en 1969 pour importer de l'héroïne aux États-Unis. Celui de boîtes de conserve remplies du plat traditionnel espagnol, la paella.
Et quand la drogue est arrivée à New York, bien évidemment, nous avions juste qu'à ouvrir les boîtes, mettre ça dans des sacs en plastique. Alors voilà, j'arrive de France, moi, je suis crevé, toute la nuit à sortir la cam des boîtes de paella. Enfin, c'était un drôle de boulot, on était crevé à la fin.
Rimbaud et ses complices attendaient 160 kilos, mais une partie des boîtes de conserve n'était pas encore déchargée des bateaux à cause d'une grève dans le port de New York. Ils ont tout de même, déjà dans leur sac, 22 kilos d'héroïne.
On sort, on appelle un taxi et on se dit tout va bien. Et on va toucher le pognon, tout va bien, la vie est belle. Et la vie n'était pas si belle que ça parce que juste au moment où on pensait ça, il y a des sirènes de police et voilà tous les flics américains qui cernent le taxi, qui nous entourent. Il y a des calibres dans toutes les portières et on était fait comme des rats.
Rimbaud, comme beaucoup de voyous de l'époque, observe la loi du silence.
Je ne parle pas. Je ferme ma gueule, je dis rien, je protège tout le monde.
Et c'est tant mieux pour ses complices, parce que Rimbaud n'est pas qu'un simple exécutant. Il organise des filières et s'occupe aussi de rapatrier en Suisse les bénéfices de chaque transaction. Il est emprisonné au pénitencier d'Atlanta aux États-Unis.
On me condamne à 30 ans de prison. Si vous êtes dans un pénitencier américain, c'est que vous n'avez pas parlé. Si vous avez parlé, vous êtes protégé. Vous n'êtes pas dans un pénitencier américain.
Pour un trafiquant français, être arrêté aux États-Unis où les peines étaient bien plus sévères qu'en France, c'est la garantie de passer plusieurs décennies derrière les barreaux.
À ce moment-là, j'avais 50 ans, j'avais pris 30 ans. Je m'étais résigné, moi, à mourir au pénitencier d'Atlanta. Et puis, j'étais pas malheureux. Je me disais, bon, c'est un destin.
Pendant ce temps, les réseaux de trafiquants continuaient évidemment d'opérer. Mais pour Rimbaud, l'histoire de la French n'est pas complètement terminée.
Ben, enfin, un jour, on vient me chercher. Il m'a dit de transférer pour New York. On m'avait mis les chaînes aux pieds, les chaînes autour du ventre. Et on s'en va, quoi. On part pour New York.
En 1972, Rimbaud est amené devant un agent du BNDD qui deviendra la DEA, l'agence fédérale chargée de lutter contre le trafic de drogue. Le policier a dans les mains les déclarations toutes récentes du chanteur Edmond Taillé, arrêté à New York en avril 71. C'est un des anciens complices de Rimbaud. Taillé, qui n'a pas parlé lors de ses premiers interrogatoires, a été lâché par ses complices et s'est décidé, quelques mois plus tard, à passer aux aveux en échange d'un statut de repenti.
Il commence à me faire du cinéma, là. Les déclarations de Taillé, mais il ne m'entend pas, mais il est brandi au-dessus de sa tête. J'ai 20 ans de plus pour vous, là-dedans. Vous pouvez m'aider, je peux vous aider. Tu vois, il m'a proposé un deal. il faudrait descendre dans ma peine. Et c'était pas du bidon, ça, ils peuvent le faire, attention. Là, ils vous donnent 30 ans à Noël, ils vous enlèvent 20 ans à Pâques dans ce pays. C'est easy. Je lui ai dit, écoute, j'ai 50 ans d'âge, 30 ans de prison, ça fait 80, tu m'en donnes 20, ça ne change pas grand-chose, de toute façon, je serai mort avant.
Édouard Rimbaud est ainsi convoqué plusieurs jours de suite devant l'enquêteur. Mais il ne parle pas. Jusqu'au jour où...
Et finalement, à un moment donné, pour me décider, il dit, tenez, lisez. Et il me met les papiers dans la main. Et puis je lis, et qu'est-ce que je vois ? C'est qu'ils avaient travaillé avec mon acheteur. Non, pendant que je me tapais 30 ans de prison et que je me fermais ma gueule pour les couvrir, ils étaient en train de me doubler.
Rimbaud apprend que ses anciens associés ont continué à faire passer de la drogue sans lui reverser sa commission. Pire, ils ont fait des affaires avec son acheteur. Dans l'univers des trafiquants, un acheteur, c'est sacré. Mais Doudou Rimbaud n'est pas au bout de ses surprises. En lisant les déclarations de Taillé, il découvre que son complice l'a aussi balancé. Et la réaction du voyou qui s'est fait doubler ne se fait pas attendre.
Alors il me double, qu'est-ce que je vais faire ? Je dis enculé, enculé demi. Ils m'ont doublé. Alors maintenant, vous voulez dire, ah, vous avez parlé, vous êtes un traître. Je vous réponds, oui, j'ai trahi des traîtres. Alors comment vous appelez ça ?
Pour Rimbaud, c'est définitivement la fin de la partie. Il se décide à parler et n'aura pas d'autre choix que de rester vivre aux États-Unis jusqu'à la fin de sa vie, sans jamais pouvoir revenir à Marseille. Une sorte de cavale inversée, où cette fois ce n'est plus de la police qu'il se cache, mais de ses anciens complices.
Ils nous ont autorisés à rester aux États-Unis parce que dans ce pays, nous étions protégés. Maintenant, si par nous-mêmes, nous décidons de quitter les États-Unis, nous décidons que nous n'avons plus besoin de cette protection. J'ai le droit de quitter les États-Unis. Peut-être que demain, ils vont me flinguer dans le parking.
À suivre dans le prochain épisode.
Moi, je pense que la filière canadienne était au moins aussi importante que la filière directe sur New York.
Ils balancent non seulement tous les voyages, mais ils balancent aussi les fonds. Ça permet aux policiers de consolider les possibilités de preuves. Et là, on se retrouve finalement avec un acte d'accusation qui est beaucoup plus solide.
C'était sans pitié. Sans pitié.
French Connection, Marseille, Montréal, New York. Avec Stéphane Berthomet. Réalisé par Cédric Chabuel. Design sonore par Création Sonore, Radio France. Une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture.